Want your most burning finance and investing questions answered? Here's a podcast you should be listening to, courtesy of Acast Recommends.
Are you ready for some personality in your personal finances? Hi, I'm Janice Torres Rodriguez, Latina money expert and host of the award-winning podcast, Yo Quiero Dinero. On this show, we're serving up POC-friendly personal finance knowledge, always with a side of sass. We're not talking about avocado toast and lattes on this show. We've got real, relatable personal finance knowledge that makes you feel seen, heard, and finally understood. Consider me your super cool, slightly risque, but always honest financial fairy godmother. Together, we'll tackle dinero in a fresh new way so you can finally become poderosa with your dinero. Check out our weekly podcast episodes at YoQuieroDineroPodcast.com or subscribe wherever you listen to podcasts.
Acast helps creators launch, grow, and monetize their podcasts everywhere. Acast.com.
Vous écoutez le podcast de So Sweet Planet. Je suis Anne Greff et je vous propose des rencontres autour des thèmes des droits humains, de la culture et de l'environnement. Emel Matlouti, bonjour.
Bonjour.
Ravie de te rencontrer pour ce très bel album.
Merci, pareillement.
Nouvel album. On va parler un petit peu de ton parcours, si tu veux bien, de tes engagements, de tes préoccupations aussi, qui sont pas forcément, enfin, qui motivent les engagements, qui les sous-tendent. Depuis ton premier album, tu traces un sillon, une voie artistique personnelle, singulière. Et pourtant, tu avais exploré différents styles musicaux depuis tes débuts. Je crois qu'il y a eu le rock, le hard rock même, je crois.
Oui.
Folk aussi. Comment décrirais-tu ton cheminement depuis tes premiers pas dans la musique jusqu'à cet album?
Ah, c'est une bonne question.
Oui, ça peut être le sujet de tout un podcast, mais on va essayer de quand même faire aussi d'autres sujets.
Je pense que, en fait, je vais simplifier. Hein. Oui. J'ai toujours suivi mon instinct et mon inspiration. J'ai toujours essayé d'être curieuse. Et ma motivation, c'est vraiment de chercher un chemin qui est le mien, de chercher un son qui est le mien et de chercher une voix qui est la mienne. Parce que quand on commence à chanter, évidemment, j'ai commencé à reprendre pour vraiment bien m'appliquer parce que finalement, j'ai jamais pris de cours de chant. Donc, j'imitais à la lettre. À un moment, j'imitais très bien certains chanteurs et c'est comme ça que je me suis appris à chanter, que j'ai travaillé ma technique. Mais pour développer une personnalité, ça ne se fait pas en un jour. Donc pour moi, mes plus grandes motivations, c'était d'arriver à trouver ma personnalité de chanteuse, ma personnalité artistique. Et finalement, avec le temps, ma personnalité intellectuelle aussi. Donc l'engagement est venu en premier pour plusieurs raisons, de temps et d'espace. Et par la suite, l'engagement s'est ouvert à de l'humanisme, si on peut dire ça. C'est-à-dire que le fait d'être partie à Paris, puis d'avoir commencé à faire des concerts un peu partout, je me suis ouverte à d'autres histoires, à d'autres tragédies, à d'autres cultures, à d'autres peuples. Et voilà, et au fur et à mesure aussi, j'ai commencé à me rapprocher de plus en plus de la nature, d'où le dernier album. Donc de plus en plus, j'essaye de me retrouver dans le calme, au milieu des montagnes, parce que les deux forces en fait, qui m'inspirent beaucoup, c'est la mer, l'eau ou la rivière, et la montagne, parce que c'est des forces devant lesquelles on se sent tout petit, mais en même temps, c'est des forces devant lesquelles tout le reste s'efface, il n'y a plus rien d'autre d'important. Et c'est un peu ces deux sentiments-là dont j'ai besoin pour travailler la musique.
Quelles sont les premières musiques ou les premières chansons que tu as entendues? Dans quel univers musical tu as grandi? Parce qu'en fait, il y avait plusieurs cultures autour de toi, j'imagine.
Oui, je n'ai pas grandi du tout dans une maison classique tunisienne. Alors, j'aime pas généraliser, mais je pense que, en général, les gens grandissent avec la musique arabe classique autour de soi. Moi, j'ai plutôt grandi avec les classiques de jazz, de blues, de Sidney Bechet, de Mahalia Jackson et de la musique classique européenne, Mozart, Vivaldi, Beethoven, Tchaïkovski Et en même temps, quand même quelques exceptions comme Shirimem, chanteur engagé, chanteur, musicien, compositeur engagé égyptien, et Cheikh El Afrit, qui est une des plus grandes voix tunisiennes, une des plus grandes voix masculines de tous les temps pour moi, un chanteur juif tunisien des années 30. Et donc je trouve que ça a été des références musicales, d'une part, qui ont été très importantes jusqu'à aujourd'hui dans mon parcours et qui m'ont enrichi, quoi.
Et puis j'avais vu aussi John Bass, Bob Marley, qui ont été côté anglo-saxon, engagé.
Par la suite, alors, par le fait, ça c'était mes choix.
Très belle reprise d'ailleurs de John Bass.
Oui, alors j'ai eu une phase John Bass assez longue. Oui. Donc au départ, alors après la, quand j'ai commencé à écouter moi-même, faire mes propres choix musicaux. Donc à un moment, donc, j'étais très dans le métal et le grunge et le heavy metal et tout ça. Et après, donc, j'avais même un groupe, mon premier groupe, c'était un groupe de métal. C'était mes premiers concerts. Un style qui est toujours en moi et dont je garde un peu les traces. Et après, tout d'un coup, j'ai découvert John Bass. Et ça a été quand j'avais 19 ans. Et pour moi, c'était un coup de foudre musical et une révélation. Et c'est à ce moment-là que j'ai décidé de vraiment apprendre à jouer de la guitare et de me lancer sur scène et d'essayer. Et en même temps, j'ai développé mon âme engagée. Et c'est là que j'ai vraiment voulu commencer un mouvement, quoi, un mouvement artistique où, avec la force de l'émotion, comme elle a fait, je peux à mon tour peut-être porter le flambeau et essayer de raviver la flamme révolutionnaire chez les gens.
Entre la façon dont tu as été liée à l'histoire avec un grand H, on va en parler juste après, et puis tes sujets de tes titres d'albums, tes sujets de chansons, tu apparais comme une artiste engagée. Est-ce que c'est un qualificatif qui te convient ou est-ce que c'est trop réducteur? Parce que pour une artiste engagée, quelquefois ça peut être réducteur aussi d'être perçue toujours comme ça.
Avec le temps, pour moi, c'est devenu réducteur. Alors, réducteur, pas dans le sens, c'est quand même un peu plus complexe que ça, hein, parce que j'ai quand même ce statut de un peu célébrité en Tunisie, avec justement l'image de la chanteuse engagée, qui génère beaucoup de respect et beaucoup d'admiration, autant de ma génération, autant des médias, et puis des gens de tous les jours, des gens de milieux différents, jusqu'aux enfants. Et donc ça, c'est quand même formidable et c'est quelque chose que, pour moi, c'est un honneur et une grande fierté, on va dire. C'est-à-dire que même si je ne suis pas la chanteuse la plus commercialisée du monde, je sais que j'ai quand même une satisfaction qu'il y a des artistes qui passeront toute leur vie sans avoir ce statut très, très honorable. Oui. Mais en même temps, je trouve que, parce que quand même, je suis encore jeune et je n'ai pas envie de me figer dans l'histoire, donc moi, je continue de créer. Puis, je me définis surtout comme une chanteuse et aussi comme une artiste, parce que ce qui m'intéresse aujourd'hui, ce n'est pas de faire des chansons ou des mélodies, mais vraiment de faire de l'art, quoi. Alors bien sûr, il faut toujours faire des chansons, mais des chansons qui soient fortes, mais aussi des chansons qui stimulent et qui peuvent être écoutées aujourd'hui comme dans 10 ans, comme dans 50 ans, je l'espère. Et c'est pour ça que je travaille, c'est ce qui me donne, en tout cas c'est ce qui me passionne. Et donc c'est là où ça devient réducteur, parce que les médias occidentaux, on va dire, parce que j'ai pas du tout le même problème dans le monde arabe ou en Turquie, qui est un pays où je me produis beaucoup. En Occident, on a toujours envie de me faire enfermer là-dedans et ça en devient réducteur parce que je trouve que ce qui est frustrant, en tout cas pour moi, c'est que du coup, mon travail de productrice, mon travail de compositrice, d'artiste tout court n'est pas reconnu.
Alors, donc, si tu as cette image aujourd'hui de chanteuse engagée, c'est parce que tu as été l'une des égéries de cette révolution tunisienne de 2011, du printemps arabe. Donc moi, je t'ai découvert à ce moment-là, comme beaucoup de gens en France, je pense, par une vidéo qui a beaucoup circulé sur le net. Et là, je crois qu'on est pile entre les deux tours de l'élection tunisienne.
C'est ça? Oui, c'est ça. Ouais.
Et du coup, je me demandais hier, en découvrant ça...
Ça me poursuit.
Oui, j'avais pas bien suivi. Mais je me demandais aujourd'hui puisque ton album est sur des problématiques beaucoup plus universelles, est-ce que tu as envie de dire quelques mots quand même aujourd'hui sur quel regard tu portes sur ce qui s'est passé depuis 2011? C'est derrière toi ou est-ce que tu vibres toujours de tout ça?
Ah, ça va et ça vient. Alors, parce qu'en même temps, je voyage beaucoup. Et puis, enfin, quand je voyage beaucoup à l'intérieur de moi. Et puis, je suis à New York depuis quelques années. Donc, j'ai quand même d'autres villes de cœur. Paris est chez moi. New York est aujourd'hui chez moi. Je me retire beaucoup dans la campagne au nord de New York. Donc je suis à multiples identités, on va dire. Mais c'est vrai que la Tunisie, maintenant, ça m'intéresse de plus en plus de faire un travail, pas juste faire des concerts, mais vraiment présenter ma musique et puis même travailler avec la jeunesse. Je suis en contact avec des associations pour les enfants. Donc, j'ai vraiment envie de faire beaucoup de choses. Et donc du coup, c'est bien sûr, la Tunisie sera toujours dans mon cœur. Et puis je m'intéresse aussi à ce qui se passe en politique. Et c'est marrant parce que en même temps, c'est très inquiétant le résultat des élections. C'est un peu
des premiers tours.
C'est un peu pour moi, c'est entre l'enclume et comment on dit et le marteau, ou je sais pas. Donc à la fois, c'est pas du tout rassurant, mais en même temps, il y a quand même un vent de démocratie. En même temps, beaucoup de gens sont abstenus, dont moi. Et à la fois, il y a des choses qui sont drôles. C'est intéressant de voir les réactions qui sont complètement diverses, pour le coup, suite aux résultats des gens, d'amis anarchistes, d'amis artistes, d'amis opportunistes. Donc c'est extrêmement intéressant. Alors j'espère qu'on va quand même, j'espère qu'on va pas retourner en arrière. Et j'espère, je sais pas si on va pouvoir progresser comme on le souhaite et comme le souhaitent beaucoup de gens. Mais en tout cas, je vais dire que c'est intriguant.
Et ton père, d'après ce que j'ai compris, était un esprit libre, indépendant. Il aurait pu avoir une carrière différente, mais si mes sources sont bonnes, il a préféré rester fidèle à ses convictions. Est-ce que ça a une influence sur ton approche du monde et sur ta façon d'évoluer, de tenir bon par rapport à ce qui te tient à cœur? Je pense notamment aux directions artistiques que tu as prises et qui ne sont pas forcément les plus commerciales et les plus faciles dans le monde de la musique actuelle. Est-ce que ça a pu avoir une influence sur toi?
Certainement, on est un peu des copies de nos parents, hein. ou des copies de la manière dont ils nous ont élevés. Ouais. Alors quand on grandit, bien sûr, on n'idéalise plus autant ses parents, mais je pense que j'ai eu extrêmement de la chance de vivre dans un milieu intellectuel, dans un milieu de gens qui m'ont poussée, pas comme ce que font les parents aujourd'hui, mais je veux dire, il fallait que je fasse des études et que j'ai été encouragée à lire. J'ai beaucoup lu depuis toute petite, en arabe, en français. J'ai lu pratiquement tous les classiques avant même d'aller au lycée. Et ça, c'est quand même une grande chance et une grande force. Et puis, oui, de voir un papa qui est athée, de grandir avec un papa qui est athée, qui a cette vision tellement libérée du monde, des choses, des relations hommes-femmes, de la politique, de la vie. Ça forme forcément un esprit éveillé et je pense que j'ai tiré de mes deux parents beaucoup d'obstination et beaucoup de naïveté aussi. C'est ce qui fait que moi, quand je fais des albums, je ne pense pas que ça ne va pas être un album commercial. Moi, je pense que je m'efforce de faire un album de qualité musicale. Je me rends compte que ça importe de moins en moins. En tout cas, dans le monde capitaliste actuel. Mais je trouve qu'il faut quand même avoir les bonnes priorités dans la vie. En tout cas, je ne sais pas travailler autrement.
Le texte que j'ai eu pour accompagner ton album dit « C'est dans la nature qu'Emel a retrouvé la flamme de son combat ainsi que les armes pour le mener à bien ». Est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus?
C'est une très belle phrase, hein. J'aurais aimé l'écrire.
Oui, je ne sais pas qui l'a écrite. Il y a beaucoup de très bonnes phrases dans le texte qui accompagne ton album. Je me suis demandé qui l'avait écrit.
Je pense que c'est Thémis Belkadra et je tiens à lui rendre hommage parce que c'est un jeune très passionné qui n'est pas assez reconnu et qui écrit magnifiquement bien et j'espère qu'il aura un grand avenir.
Il est journaliste ou écrivain ?
Il est freelance, c'est un jeune freelance qui essaye de se débrouiller comme il peut, qui fait des choses de temps en temps Et je l'ai découvert et je suis ravie qu'il écrive sur moi et qu'il écrive des choses qu'il pense véritablement.
C'est très très bien formulé. Il y a à la fois l'esprit de synthèse, mais on sent qu'il a bien épousé l'universalité de la pensée que tu as mis dans cet album.
Merci, merci pour lui et merci pour moi parce que je partage ton avis aussi. Ben, c'est vrai que, en fait, avant même la sortie de mon dernier album, donc pendant les préparatifs à la sortie, j'avais un peu de temps, donc je suis partie à Woodstock. J'ai loué une petite cabane dans la forêt.
Le Woodstock de
Bob Dylan, oui. De New York.
Celui qu'on connaît tous.
Voilà, celui qu'on connaît tous.
Parce que je crois qu'il y a plusieurs villes qui s'appellent
ouais,
Woodstock.
Ouais, il y en a plusieurs. Donc le Woodstock, le
historique.
Seul, the one and only Woodstock. Oui.
Jenny Joplin, Jimi Hendrix.
Voilà, et je comprends en fait, c'est toute cette région qui voilà, où il y a la chaîne de montagne, des Catskills, et c'est tellement inspirant. Donc c'est vraiment là-bas que j'ai retrouvé. Je ne suis jamais partie en résidence toute seule. J'ai toujours préféré partir avec des gens pour retrouver l'inspiration et essayer de trouver d'autres choses en moi que je ne connais pas. Et là, je me suis dit, je vais essayer vraiment de trouver ma voie d'abord, moi, toute seule. Et parce que j'étais un peu perdue. Je n'avais plus l'inspiration d'écrire en arabe. J'avais un peu perdu ce truc ou des choses qui me viennent comme ça, que j'ai envie d'exprimer.
Parce que tu écris texte et musique ?
En général, oui, c'est ce que je fais. Je ne rejette pas... Si j'ai des propositions de bons textes, mais sauf que j'ai tellement un style personnel que j'estime que l'écriture, pour moi, c'est tellement une belle échappatoire et une belle thérapie que... en tout cas, quand j'écris des choses qui me parlent, j'ai envie de les chanter, voilà.
Et donc, l'anglais, c'est plutôt en anglais cette fois-ci.
Donc j'ai perdu un peu cette chose que j'ai eue depuis que j'ai commencé à écrire en tunisien, parce que c'est vraiment écrire en tunisien qui me plaisait. J'écris en arabe littéraire, j'ai une bonne base d'arabe littéraire, grâce à mon papa, et voilà, j'étais plutôt bonne élève en arabe littéraire, donc j'ai toujours cette base en moi, et de temps en temps, il y a des choses qui sortent en arabe littéraire. Et puis là, voilà, plus rien. Et puis de toute façon, j'étais prête à faire cet album en anglais, mais je savais pas, j'avais plein de questions, donc je suis partie, j'ai ramené tous mes carnets, et puis pour la première fois, je me suis vraiment posée avec la poésie. Enfin, j'aime beaucoup lire la poésie, j'en lis pas autant que je devrais, mais là, j'ai découvert Rilke en tant que poète, le poète allemand Rainer Maria Rilke, et c'était un recueil de poésie qui était une sélection que quelqu'un a décidé de mettre ensemble, et ça m'a vraiment percée, quoi. Je trouvais que sa façon alors je comprenais pas toujours exactement ce qu'il essayait de dire, et ça ne m'embêtait pas du tout en fait. J'aimais bien voir sa façon d'utiliser les mots, comme par exemple des expressions comme ça qui, moi, je trouve, résonnent beaucoup avec mes états d'âme, genre « bottomless ground », qui veut dire un sol sans fond. Je trouve ça tellement, tellement poétique, tellement musical aussi. Et de fil en aiguille, j'ai essayé un peu comme ça de m'inspirer, de voir où est-ce que ça allait m'emmener. Mais j'ai commencé à écrire en arabe, du coup, ce qui est un peu paradoxal. Et j'ai écrit cette chanson qui s'appelle « Merrouh », qui veut dire... de l'âme, ce qui émane de l'âme, c'est par rapport à tout cet exode syrien qu'on a observé tous et beaucoup, avec beaucoup d'indifférence. Et pour moi, cette chanson, elle représente la bataille, un peu la bataille entre le bien et le mal, mais c'est un peu plus complexe que ça, où la nature se transforme. Alors tout le long de l'album, la nature, c'est le fil rouge. La nature, c'est un peu un personnage vraiment présent à travers tout l'album. Mais c'est un personnage qui tient plusieurs rôles. Alors, le rôle parfois de la victime meurtrie, déchirée, abîmée. Et à la fois, c'est le rôle de, par exemple, la déesse Kali, qui est en colère et qui écrase tout, mais pour mieux reconstruire. Donc, Merrouh, c'est un peu la phase où la nature est en colère et elle essaie d'obtenir vengeance. Et c'est un peu, je vois cette image d'une marche de gens qui essayent d'échapper à cet apocalypse qui les suit. Et c'est aussi toute la métaphore que ça dégage. Et ça, j'ai écrit ça en arabe. Et j'ai jamais voulu transformer ça en quoi que ce soit d'autre. Ce morceau, il est venu assez complet, assez rapidement. J'en ai aussi écrit un autre.
Oui, il y en a deux, je crois.
Oui. Et pareil, tous les deux, il y a ce côté le calme et la tempête à la fois.
Dans le texte et dans la musique, hein, parce que la musique aussi, il y a des...
Oui,
c'est ce que j'ai beaucoup apprécié, en fait, dans tous tes titres, et même sur les albums précédents, c'est que, voilà, on ne s'ennuie pas. C'est pas, tu rentres pas dans des constructions classiques, petit couplet, le pont, le verre. Là, on sent que tu crées un univers comme on crée un film, en fait. Il y a toute une dimension... presque visuel, c'est des textures. Je pense que tu reviendras pas les parentés qu'il peut y avoir avec Björk, et notamment, je sais plus le titre de cet album blanc là où il y avait des
Medulla.
Oui, voilà, c'est ça.
C'est marrant, tu es la deuxième personne à me dire ça.
Parce qu'il y a un lien viscéral avec la nature aussi, je pense.
Oui, c'est vrai. C'est vrai que c'est une artiste que j'adore écouter, et Medulla, c'était ma première découverte de Björk. Parce que pendant longtemps, pour moi, c'était une artiste incompréhensible. Et puis moi, j'aime quand même les chansons, quoi.
Oui, mais il y a des vraies mélodies. Mais c'est plus accessible, voilà, quand même, que certains albums de Björk qui, moi aussi, m'ont laissé un peu...
Mais je suis... ça me touche énormément de me donner une référence comme ça. Je trouve que c'est quand même une référence assez, assez suprême, parce que Medulla, c'était tellement un album audacieux qu'elle n'a même pas tourné avec, d'ailleurs, je crois. Ah oui. J'ai lu ça quelque part, parce que je pense que ça a dû être tellement complexe, enfin, je ne sais pas.
Oui, parce qu'il y a ce vrai travail créatif de son, qui n'est pas juste une ligne mélodique, et puis on fait des arrangements. C'est beaucoup plus poussé que ça, c'est un vrai travail artistique, comme on peut avoir dans l'art visuel ou dans l'art pictural ou dans...
Voilà, l'art visuel. Ouais, en fait, je m'inspire beaucoup, surtout les récentes années, et aussi un peu grâce à l'inspiration de mon mari, qui est très passionné par ça aussi, et la danse contemporaine. Donc du coup, quand je vivais à Paris, j'allais vraiment très 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 souvent au cinéma, c'était mon meilleur ami. J'avais pas une vie sociale, j'en avais pas beaucoup, mais j'allais au cinéma. Dès que je pouvais, j'allais au cinéma et je consommais le cinéma d'auteur avec... Et j'allais au Forum des Images et je prenais les DVD et je consommais réalisateurs. Je me prenais un réalisateur et j'essayais de regarder tous ses films, Fellini, Kiarostami, Ken Loach. Et en même temps aussi, donc, je m'inspire de la danse contemporaine. Donc j'ai regardé beaucoup, beaucoup de chorégraphes, surtout chorégraphes féminines. Et j'essaie d'en voir à New York, parce que de temps en temps, il y a des créations assez époustouflantes. Et je vois la relation avec la musique. Dans tout ça, moi, ce qui m'intéresse beaucoup, c'est la découverte de cette approche de la rythmique entre l'expression corporelle, que ce soit dans le cinéma ou dans la danse, et l'interaction avec... Et la musique devient vraiment autre chose que juste... C'est vraiment des sonorités, et c'est ça qui m'intéresse de plus en plus, c'est d'aller au fond pour créer un son. C'est-à-dire que maintenant, si on écoute un bout d'une instru sur une chanson, on va dire « Ok, c'est Emel Makhlouti ». C'est pas juste avec la voix. Enfin, j'essaye en tout cas d'aller vers là.
Et tu parles de que le cinéma était ton meilleur ami. Tu as participé à un documentaire qui a été tourné en Iran aussi.
Oui, alors ça c'était une... D'ailleurs, ça fait exactement 6 ans depuis qu'on est parti en Iran. Alors l'aventure a commencé plus tôt, et au bout de 2 ans, on a réussi à aller à Téhéran pour le documentaire No Land Song, qui a eu beaucoup, beaucoup de succès en France. Et j'étais contente de faire partie d'une aventure.
On peut voir en streaming, hein, je précise, parce que je l'ai trouvé hier. Oui.
Ah, excellent.
Je voulais le regarder hier soir pour des raisons personnelles.
Sur quel site?
J'ai pas réussi. Il est sur 2 sites. Il est sur Universciné.
Merci de faire passer l'information.
Voilà,
parce que
c'est... Et donc, enfin, en tout cas, sur le net, on le trouve en VOD.
Super. Alors moi, pour être très honnête... moi, j'ai voulu participer à l'aventure parce que je suis une grande fan d'Iran. Alors, quand je suis arrivée à Paris, une des premières choses que j'avais dans mon studio à la Cité des Arts, c'était une grande carte de l'Iran. Et je rêvais de visiter l'Iran et les montagnes, encore une fois. Toutes les montagnes que j'avais vues dans les films de Kiarostami, je voulais voir ça. Et c'est un pays aussi dont j'ai découvert la musique.
Donc, cinéma, il y a une création très dynamique.
Donc le cinéma,
aussi.
Moi j'ai toujours découvert la musique à travers le cinéma. Même chose pour la Turquie, pour laquelle j'ai une grande passion aussi. Mm-hmm. Et pour moi, enfin le chant iranien en tant que chanteuse, je trouve que c'est tellement fascinant. Ils ont une technique extraordinaire. et une musique tellement profonde, ces mélodies qui peuvent parler, par exemple, des nuits de Téhéran, mais ça dégage tellement, ça sort, toute l'âme est exposée devant nous. Et moi, j'étais heureuse, quoi. Je voulais juste aller en Iran et chanter de la musique perse. Et bon, après, évidemment, l'aventure était très émouvante. Et d'imaginer de ne pas pouvoir être moi-même et faire mon projet, être mon projet solo, parce qu'on ne peut pas être chanteuse soliste en Iran, juste pour bien rappeler.
Oui,
et
c'est ça, il faut replacer un peu le contexte.
Je trouve ça plus violent que de ne pas pouvoir chanter tout court, en fait.
Oui.
De pouvoir être sur scène, mais il faut être masqué par la voix d'un homme. Et après, donc, j'ai eu la grande chance d'interpréter une chanson perse. C'était vraiment une des aventures les plus enrichissantes. Et j'ai eu la grande chance d'aller en Iran. Et je me suis éclipsée.
Vous étiez quatre, je crois.
Alors, on était quatre chanteuses, oui. Deux chanteuses françaises, Jeanne Chéral et Élise Caron, moi. Et deux chanteuses iraniennes, pardon. Parvin Namazi. Et comment ça s'appelle la cinquième, qui est une chanteuse lyrique et qui a une voix absolument fantastique, qui vit en Iran.
Et le but, c'était de réussir à chanter ensemble sur scène, ou qu'est-ce que...
Le but, c'est donc mené par la compositrice Sarah Najafi, la sœur du réalisateur Hayat Najafi. Le but, c'était d'organiser le premier concert de femmes solistes depuis la Révolution. Alors évidemment, on voit donc le périple. Est-ce qu'on va arriver à faire ça ou pas? Donc, je ne veux pas gâcher la surprise, mais voilà, le film, final, le concert, il se passe, mais vraiment, c'est vraiment un périple quoi, pour y arriver.
Alors en 2017, tu disais dans une interview au site Middle East Eye, en Occident, on trouve encore cet esprit néocolonialiste qui voudrait que de nos pays n'émanent que des choses liées à la tradition, à l'exotisme ou à la politique, ce qui est complètement aberrant car nous créons, nous évoluons et surtout nous pouvons être aussi avant-gardistes. Cela ne devrait pas être le privilège de l'artiste européen ou américain, et tu disais je pense que les choses vont finir par changer. Alors est-ce que tu vois des signes de changement ou est-ce qu'on en reste à cette vision toujours un peu figée avec des clichés?
Ce que je remarque, et pour être très franche, ce qui change, c'est en tout cas les rares artistes qui ne sont pas du tout dans l'exotisme. Maintenant, on cherche toujours, c'est l'identité sexuelle. Alors soit c'est l'identité sexuelle, soit c'est l'identité politique, soit c'est l'identité exotique, ethnique. Alors, identité ethnique, je ne sais pas si ça se dit. Malheureusement, on est dans ça, on est dans ce panel. Donc, si on n'est pas dans l'un, on est dans l'autre. Et si on ne rentre pas dans ces cases, eh ben, ça intéresse beaucoup moins. Et c'est aussi, entre autres, un regard colonialiste, comme si... c'est-à-dire, par exemple, quand mon premier album est sorti et qu'il a eu beaucoup de succès, que j'assume complètement, qu'on considère peut-être un peu plus world music que tous les albums que je fais plus récemment, mais j'entendais souvent mélange entre... musique traditionnelle et voilà. Mais c'était pas du tout de la musique traditionnelle. C'est-à-dire que quand j'allais en Tunisie, les gens, ils pouffaient de rire. C'est-à-dire que je composais des chansons qui étaient un peu folk, rock et tout, mais c'est pas du tout de la musique traditionnelle tunisienne. Enfin, du coup, les gens, ils s'attendent toujours à ce que voilà, les gens de pays arabes ou même d'autres pays, ils vont forcément... rapporter des épices et de la tradition et des conflits politiques.
Alors, tu as relié assez tôt, en fait, les situations particulières que tu vivais dans ta propre vie et en Tunisie à des situations universelles. Tu les as reliées à des contextes que tout être humain peut rencontrer, en fait. Qu'est-ce qui t'a donné envie d'élargir? Parce qu'au début, tu parlais vraiment de situations politiques ou de choses que tu vivais là où tu étais. Aujourd'hui, les préoccupations sur cet album, ça concerne tout le monde. Ça peut toucher n'importe qui sur la planète, en fait.
Et tout simplement, en fait, en tant qu'artiste, on s'inspire de ce qui nous entoure, de ce qui nous touche, de notre environnement immédiat. La personne qui a écrit l'album Kelmti Ora, c'est plus celle que je suis maintenant. Alors, on a toujours quelque chose de soi qui continue de voyager, mais avec le temps, avec l'âge, avec les voyages, les déménagements, on évolue, quoi.
Et la maternité.
La maternité. Et d'une certaine manière, on se rapproche, en fait, finalement, je trouve qu'avec la maturité, qu'avec l'âge, etc., on se rapproche de la version la plus honnête de soi. Et j'ai découvert vraiment ça quand j'ai fait mon dernier album, Ensen. J'ai trouvé que cet album était vraiment la plus honnête expression de moi-même. J'ai découvert une facette de moi-même qui me passionnait beaucoup et qui je ressentais complètement et que je trouvais que ça me ressemblait le plus. Et là, cet album, je trouve que ça me ressemble encore plus. Et encore plus dans le chant, ce qui est quand même une révolution pour moi, parce que le chant, ça m'a toujours accompagnée d'une manière pratiquement inconsciente. Je me suis jamais posé la question, depuis toute petite, je me suis vraiment jamais posé la question si je savais chanter. J'ai toujours chanté avec mon cœur, avec mon instinct, très naturellement. Je ne me pose jamais, enfin, je ne m'entraîne jamais pratiquement. Je chante pas quand je dois pas chanter, enfin. C'est quelque chose qui est là et que j'utilise.
Et qui donc, fait partie de ta vie.
Et donc, je n'ai pas forcément toujours écrit pour ma voix, pour mon type de voix. Et là, d'un coup, je trouve que, surtout aussi via la langue anglaise, j'ai trouvé que ma voix s'est positionnée d'un coup, comme sur un fauteuil dans lequel on est extrêmement confortable et elle ne fait pas semblant, elle n'essaie pas de faire des pirouettes et des péripéties. Elle est juste là, elle interprète avec émotion.
Oui. Dans les interviews que j'ai pu réécouter de toi d'il y a presque 10 ans, qui était à l'époque autour de la révolution en Tunisie, tu parlais déjà beaucoup de prise de conscience. Prise de conscience d'une situation, prise de conscience des acquis. Aujourd'hui, le sujet des prises de conscience a changé sur ton dernier album, mais tu parles encore beaucoup de prise de conscience. Qu'est-ce qui t'a aidé, toi, à avoir des prises de conscience?
Je pense que tout le monde est né avec des prises de conscience. Personne, quand on voit des gens aller voter, même pour un candidat dont on n'est pas content, il y a quand même une prise de conscience là-dedans. Les gens ont eu envie, cette personne s'est levée le matin, a eu envie d'aller voter. Quand on s'émeut pour une musique, pour une situation, quand on ressent des choses, c'est une prise de conscience. Tout le monde est capable de prise de conscience. Et cette prise de conscience, elle peut se développer d'une simple émotion instinctive à un geste citoyen révolutionnaire engagé. Ce n'est pas c'est juste on vit sous la poigne d'une minorité. Et c'est ça le capitalisme que je refuse complètement. Et comme disait Jean Ziegler, le Suisse, qui dit qu'en fait, on peut parfaitement poser des lois pour interdire le capitalisme fou et
qui
apocalyptique.
Qui ruine
tout, qui ruine aujourd'hui, qui ruine l'art,
moment,
qui ruine la musique. Et du coup, quand on emprisonne les gens dans un modèle et dans un système comme ça, forcément, leur prise de conscience, eh ben, elle dort. Et il faut la réveiller.
Très bien.
C'était pas mal, hein.
C'est pas mal. Je ressens l'élan engagé et révolutionnaire en toi. Ce nouvel album, dans quel environnement visuel tu l'as écrit? Est-ce que ça a été d'une traite? Sur combien de temps tu as écrit tout cet univers, toutes ces chansons? C'est presque un concept album, en fait.
Oui. Alors, je vais pas différencier la phase d'écriture propre des chansons et la phase de production, parce qu'en fait, tout a continué à se développer. Pour la première fois, parce que d'habitude, j'écris des textes, j'ai toujours des textes, j'écris toujours au fur et à mesure, donc au moment où je me retrouve pour faire un album, c'est vraiment pour enregistrer, pour créer des arrangements, pour vraiment produire un album. Donc je ne me suis jamais posée à dire « bon, bah, maintenant je vais faire un album et je vais écrire des chansons ». Ça a toujours été « bon, bah, j'ai des chansons, je fais une sélection et puis je commence à faire un album ». Là, c'était pas du tout ça. Je me suis posée pour écrire, éventuellement dans le but d'un album. Et sauf que les chansons ont continué à se développer. J'ai laissé en fait la porte ouverte pratiquement jusqu'à la dernière minute. Donc j'ai continué d'écrire des nouvelles chansons jusqu'il y a quelques mois. Donc la phase d'écriture et de production, elle a commencé l'été 2016. Après, je suis repartie en résidence. Donc, j'ai fait en fait une série de résidences à chaque fois dans des endroits différents de la campagne new-yorkaise et à chaque fois dans des petites villes autour de Woodstock. Et à chaque fois avec des gens différents. Donc la deuxième phase, je suis partie en résidence avec mon compagnon de plusieurs années qui a coproduit mon dernier album Insane avec moi, qu'on s'est posé ensemble. Et là, on a développé encore plus les chansons et on a fait de la production en même temps et on a créé des sons en même temps. Et ensuite, on a fait une série comme ça d'autres résidences. Alors du coup, j'en ai fait un peu en Italie. J'ai fait participer en fait pratiquement tout mon entourage, mes musiciens de scène, des gens avec qui j'ai travaillé il y a longtemps, des gens que j'ai découverts, des gens qui travaillaient avec la danse contemporaine, des gens qui sont plutôt dans la technologie des gens qui sont dans la musique électronique et dans un peu les geeks. J'ai essayé d'ouvrir mon panel pour que cet album soit le plus riche possible et parce qu'aussi, je m'inspire d'artistes comme Kanye West, que j'écoute beaucoup, qui, pour moi, c'est pas qu'un rappeur, en fait. C'est vraiment un producteur à 360 degrés qui a un univers que je me retrouve dedans. Et il travaille souvent avec plusieurs producteurs différents. Quelqu'un qui fait une caisse claire, quelqu'un qui fait une ligne de basse, quelqu'un qui fait... Parce que chaque chanson a son univers et on peut pas, il ne peut pas y avoir une seule vision. Après... Je pense qu'au final, il y aura ma vision, mais ma vision revisitée et...
Enrichie.
Et enrichie, voilà.
D'accord. Tu dis, ma musique ne se limite pas à illustrer les mauvaises choses qui se produisent dans le monde. Quelque chose de positif peut affleurer ensuite. Et tu dis aussi, en écoutant cette musique, je veux qu'on se... Donc en parlant de cet album, hein, je veux qu'on se sente fort et plein d'espoir, mais je veux qu'on soit conscient et qu'on soit conscient des enjeux universels. Nous traversons une période difficile, cependant nous sommes tous là, présents, combattons ensemble, regardons les ténèbres et ensuite illuminons-les en nous connectant à la nature et à la vérité à l'intérieur de nous. Comment est-ce que tu te connectes à la nature et à cette vérité à l'intérieur de toi ?
Ben c'est très simple, il n'y a pas de recette pour se connecter à la nature. Et d'ailleurs, justement, c'est tellement universel. C'est qu'on fait partie de la nature, en fait. C'est ça l'erreur, ce n'est pas nous et la nature. On vient de la nature, on est une seule entité. Et donc, c'est ce qui fait que quand on va à la plage ou quand on va à la montagne, quand on est devant une rivière, tout d'un coup, on se dit... Comment peut-il y avoir des problèmes dans le monde quand on est face à tant de beauté et tant de grandeur et de sérénité ? Et donc, c'est la connexion, elle se fait immédiatement, instantanément.
On sent une dimension très spirituelle, sans parler de telle ou telle religion, mais on sent une dimension très spirituelle dans laquelle tu laisses chacun entrer par la porte qu'il veut, quelle que soit sa culture ou...
Je pense que c'est très important pour l'être humain d'avoir de la foi. Je pense que c'est la foi qui nous fait avancer, qui nous fait vivre. Parce que c'est tellement incroyable. Qu'est-ce que ça veut dire d'être un être humain, d'être en vie, la terre, l'univers, tout ça, l'échéance humaine. Et donc, du coup, je pense que c'est pour ça qu'il y a eu les religions, c'est pour ça que les gens ont besoin de foi, mais cette foi, elle peut prendre plusieurs formes. Et moi, ma foi, je la retrouve dans la musique et dans la création sonore. Et en fait, c'est tellement complémentaire avec la nature, parce que la musique, elle émane de la nature aussi. Et donc, du coup, oui, c'est très spirituel, je me retrouve. Et le chant aussi, c'est quelque chose de tellement intérieur. En tout cas, ça devrait l'être. Et du coup, c'est automatiquement, peut-être dans cet album, comme j'ai posé ma voix d'une façon plus sereine que d'habitude, et de façon, j'ai fait des nappes de voix, des nappes de sons, j'ai utilisé beaucoup de bruit, de nature. Et donc, c'est un album très, très organique, très instrumental et à la fois très vocal. Et donc, c'est normal, c'est mystique, c'est spirituel.
Qu'est-ce qu'on peut te souhaiter ? Pour les mois, les années qui viennent ?
Beaucoup d'argent pour que je puisse continuer de créer, parce que quand on veut créer de la qualité, quand on veut collaborer avec des créateurs de qualité, on a besoin d'argent. peut-être de la longévité, parce que je pense que je ne pourrais rien faire d'autre dans la vie. Je pense que je suis née pour faire ça Et comme c'est pas évident d'être vrai, d'être profond de nos jours, j'espère que je pourrai être là le plus longtemps possible, parce que je pense qu'on a besoin de gens comme moi.
Et bien voilà, une belle conclusion.
Merci.
Nous avons besoin de gens comme toi,
ben
Emel
oui,
Matlouti.
Il faut...
C'est vrai. Je confirme.
Ah, on est toujours.
Oui.
c'est pas par manque de modestie, mais je pense que moi j'ai besoin de gens aussi qui fonctionnent avec leur cœur, avec leur âme, comme vous dans votre travail et dans les questions que vous posez.
Merci beaucoup. Très bonne continuation, très beau succès et longue vie à cet album.
Merci.
Que j'espère tu porteras sur scène et que j'espère j'aurai l'occasion de voir interpréter.
Oui, le 29 octobre au Café de la Danse, voilà. J'espère vous voir.
À Paris.
Oui, à Paris.
Et puis ensuite, des dates un peu partout, j'imagine. Je te le souhaite.
Merci.
Merci. Au revoir.
Au revoir.
Chers auditeurs, si vous avez apprécié cet entretien, merci de mettre 5 étoiles au podcast de So Sweet Planet sur iTunes. C'est très important pour qu'il ait plus de visibilité. N'oubliez pas de vous abonner soit à la newsletter sur sosweetplanet.com ou sur iTunes au podcast, ou les deux, pour être informé des prochains podcasts mis en ligne. À bientôt.
Acast powers the world's best podcasts. Here's a show that we recommend.
It's the question that's on everyone's mind. How do you live a good life? Is it about work, health, or relationships? What about happiness, meaning, and money? What really matters? And how can you dramatically improve all of these things? These are the questions we explore every week on the top-ranked podcast, Good Life Project, hosted by award-winning author and perpetual seeker, Jonathan Fields, which also happens to be me. Every week, I sit down with world-renowned researchers, experts, and scions of art and industry on the Good Life Project podcast. This week, in fact, we're sharing a fantastic conversation with the author, Elizabeth Gilbert, about a single practice that changed her life. Listen to the Good Life Project podcast wherever you get your podcasts. Acast helps creators launch, grow, and monetize their podcasts everywhere. Acast.com.
Acast helps creators launch, grow, and monetize their podcasts everywhere. Acast.com.